Et merci de m'accueillir. Je ne sais pas bien ce que vous attendez de moi. Encore tout à l'heure en voiture, je me disais, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi donc est-ce que tu as accepté de venir? En fait, je sais pourquoi j'ai accepté. J'ai accepté parce que je ne pouvais pas refuser une invitation de la communauté du Chemin Neuf. Et je disais tout à l'heure à table que je commençais à être un vieux monsieur et que quand j'étais étudiant en théologie, donc il y a quelques années, j'avais vu naître la communauté du Chemin Neuf. Et puis ce à quoi je suis très sensible en ce qui concerne la communauté du Chemin Neuf, c'est votre dimension œcuménique qui fait vraiment partie personnellement aussi de ma vie, de mon souci, de mes convictions et de mes pratiques. Je crois qu'il est aussi difficile de parler de la non-violence si on ne la pratique pas que de parler de la médecine si on ne la pratique pas, et encore plus de parler de Dieu si on ne le pratique pas. Donc je vais peut-être vous redire un petit peu, me situer, pourquoi je suis attaché à cette dimension de la non-violence. Et comment j'ai pu la vivre un petit peu, parce que là je vais pas vous faire un exposé historique sur la non-violence d'hier à aujourd'hui. D'abord, je sais pas par où j'aurais commencé. Comme Emmanuel vient de le dire, j'ai grandi dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Alors vous n'êtes pas tous lyonnais, tout le monde ne peut pas être parfait. Le quartier de la Guillotière à Lyon, c'est un quartier populaire qui comporte un poumon immigré important, un peu le petit Barbès de Lyon, avec une présence surtout algérienne, qui s'est étendue aujourd'hui à beaucoup d'autres groupes humains aussi. Et donc j'ai vécu à la lisière de ce quartier toute mon enfance, toute mon adolescence et plusieurs années encore. Et si bien que lorsqu'il y a eu, comme vous le savez, entre 1954 et 1963, la guerre d'Algérie, eh bien, il y a eu inévitablement des retombées dans l'immigration algérienne, qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais qui existait. Il y avait bien sûr des Algériens qui étaient solidaires de la lutte pour l'indépendance de leur pays. Il y avait aussi des conflits internes au mouvement de libération algérien, puisqu'il y avait deux grands groupes, le FLN et le Front de Libération Nationale, qui a fini par prendre le dessus, et le MNA, le Mouvement National Algérien, qui a été quasiment éliminé par les premiers. Et donc, à cette époque-là, dans les fins des années 50, début des années 60, à Lyon, comme à Paris, comme à Marseille, il y avait des règlements de compte entre Algériens, il y avait donc des morts, des assassinats, il y avait une répression policière, il y avait des arrestations, et moi j'étais témoin de tout cela. Et j'ai encore à l'esprit ces images de violence de jeunes, c'était des jeunes Algériens qui étaient là immigrés, étant tout à coup ceinturés par des policiers, parfois assez malmené, quoi. Et tout de suite, j'ai eu cette horreur de la violence. Et par bonheur, au même moment où je découvrais ces réalités très, très présentes de la violence, j'ai entendu parler d'un certain nombre de réponses. Et je le disais tout à l'heure à table, je m'excuse de vous le répéter. J'ai entendu trois réponses. Une première réponse, elle est venue d'un homme qui s'appelait Louis Lecoing, qui était un des derniers grands anarchistes français, libertaire, qui avait fait beaucoup d'années de prison, déjà au moment de la guerre de 14-18, parce qu'il avait refusé de faire la guerre. Et ce Louis Lecoing a fait, à la fin de 1962, une grève de la faim illimitée pour qu'il y ait en France un statut des objecteurs de conscience. Et d'ailleurs, il a fini par obtenir, au bout de sa grève de la faim, De Gaulle a dit « Je ne peux pas laisser mourir Monsieur Lecoing ». Il a obtenu un statut pour les objecteurs de conscience. C'est la première fois que j'ai entendu parler des objecteurs de conscience. Ensuite, au même moment à peu près, on parlait de plus en plus en France des combats que menait aux États-Unis Martin Luther King pour l'abolition des lois de ségrégation dans le sud des États-Unis. Alors là, ça a été pour moi l'illumination. J'étais chrétien pratiquant avec ma famille, et Martin Luther King, du même coup, représentait bien la mise en œuvre de l'Évangile. Je me disais, voilà cet homme et ceux qui sont avec lui, eh bien, il est en train de vivre concrètement l'Évangile dans des situations de conflit, d'injustice. Et surtout, j'étais déjà sensible, alors je ne le comprenais sûrement pas de cette manière-là comme aujourd'hui, mais j'étais sensible au fait qu'il ne cherchait pas seulement à convertir le cœur d'individus, d'aller un peu à la pêche à la ligne, mais qu'il avait le souci de convertir toute une société, de convertir finalement les structures injustes.